Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Seigneur pour ce temps de louange. Merci au pasteur Jean-Paul Zurcher et à toute l'équipe pour ce très beau temps de, voilà, dans la présence du Seigneur et aussi d'introduction à ce que nous allons méditer ensemble. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. J'espère que vous soyez ici présents à Paris-Rue-Béliard ou chez vous, que vous allez donc regarder ce texte que nous allons méditer dans Éphésiens. La lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, au chapitre 3, versets 14 à 21. Ce passage fait suite au chapitre, bien sûr, 1. Je ne citerai pas le chapitre 2 pour l'instant, et aussi au début donc, du chapitre 3. Et au chapitre 1er, l'apôtre Paul souligne la gloire de Christ et l'étendue infinie de son règne. Qu'il ne règne pas seulement sur la terre, mais aussi dans tout l'univers. Et au chapitre 3, dans la première partie, il montre que Dieu, en fait, ne veut pas seulement régner à la surface, mais qu'il veut aussi régner en nous, dans nos cœurs. Et que ça, en fait, c'était le projet top secret de Dieu de toute éternité. C'est ce que l'apôtre Paul appelle le mystère de Dieu. Qu'il vienne habiter en nous, dans nos cœurs. Et l'apôtre Paul écrit donc dans les versets que nous allons méditer, au verset 14 à 21 du chapitre 3, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors, c'est un texte magnifique, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'il y a suffisamment de termes qui nous indiquent qu'il parle de choses extraordinaires, infinies, qui nous dépassent. Alors, comment faire pour une prédication de 30-35 minutes, a priori? Il va falloir faire des choix, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, j'ai à cœur de mettre l'accent sur la première dimension qui est citée par l'apôtre Paul au verset 18, à savoir la largeur infinie de l'amour de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, en Écosse, le monde, ou en tout cas les représentants du monde, sont réunis pour réfléchir à comment est-ce qu'on va sauver la planète. Il y a des personnes donc politique, mais aussi de la société civile, j'imagine des entreprises qui sont réunies pour encore se demander comment est-ce qu'on va faire pour sauver la planète. Et quand on médite sur la largeur de l'amour de Dieu, du Créateur, de celui qui a créé, comme le dit l'apôtre Paul, les cieux et la terre, je ne sais pas à quoi ça vous fait penser de manière concrète. Comment est-ce que cet amour infini de Dieu se manifeste même dans sa création? Puisque l'apôtre Paul, dans une autre lettre aux Romains, au chapitre 1, nous dit qu'on voit les qualités infinies et invisibles de Dieu dans sa création. Alors pour ceux qui aiment la nature, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes très urbains et vous n'aimez pas trop la nature, mais l'amour infini de Dieu dans sa largeur se voit dans la diversité de la création. Si vous tapiez sur Internet, combien d'espèces de fourmis, ne serait-ce qu'en France, est-ce que vous savez combien d'espèces de fourmis on trouve en France ? Je vois qu'il y a des enfants ici. Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de fourmi ? Les fourmis noires ? Ou les fourmis rouges ? Et puis il y a les petites fourmis, et puis il y a les grandes fourmis ? Combien d'espèces ? Il y a les fourmis volantes aussi ? Peut-être 5, 10 ? Rien qu'en France, il y a plusieurs dizaines, il y a au moins une centaine de sortes de fourmis différentes, rien que dans le petit territoire de la France. Et si on se demandait combien de bananes il y a sur la planète ? Alors, sur nos étalages, on ne voit, j'ai l'impression, qu'une sorte de banane. Bon, si on va dans les magasins afro-antillais asiatiques, on va enfin pouvoir voir peut-être une deuxième, une troisième, une quatrième, maximum une cinquième sorte de banane. À votre avis, combien de bananes y a-t-il sur la planète, en réalité, d'espèces de bananes ? 200 ? Adjugé, vendu, non ? 1800. Un Dieu d'un amour large, infiniment large, ne peut pas créer quelque chose de rikiki et triqué, mais il va créer large, divers. Et vous faites ça avec toutes les espèces d'animaux, vous tapez combien de sortes de crapauds, de grenouilles, et bien ce sera la même chose, la profusion. Et le monde aime cette diversité. Et nous l'avons chanté, nous l'avons rappelé, nous venons de toutes sortes de tribus, de nations, de peuples. Nos pères, nos ancêtres parlaient toutes sortes de langues. Et nous savons que Dieu veut que toute l'humanité soit sauvée. Il ne veut pas se contenter d'avoir un petit troupeau en réalité. Mais il veut que tous les peuples, toutes les nations, toutes les tribus et les gens de toutes langues, sans exception, parce que son amour est assez grand pour ça, soient sauvés. Mais bien souvent, on pourrait se dire, est-ce que vraiment on peut accueillir dans la sainteté une telle diversité d'êtres humains ? Parce que les êtres humains aujourd'hui, au XXIe siècle, fonctionne beaucoup avec la notion de tribu, mais pas comme on l'entend. Il y a la tribu des écologistes, donc, mais il y a aussi, par exemple, la tribu des LGBT+. Il y a la tribu des gens qui sont bon chic, bon genre, etc., etc., de ceux qui aiment jouer aux jeux vidéo, et j'en passe. Chacun sa tribu. Et la question, c'est comment est-ce qu'on va l'Église peut être le pont entre ce monde qui est divers et qui aime la diversité et qui appelle à ce que l'on voit davantage, n'est-ce pas, la diversité à la télévision, au Parlement. Le monde aime la diversité. Dieu a créé la diversité. Mais parfois, il y a un fossé dans l'Église parce qu'on n'aime pas trop la diversité. Je ne sais pas pour vous personnellement, est-ce que vous diriez que vous aimez tous les êtres humains ? Quand vous êtes sur votre lieu de travail, on va m'en prononcer très concret, hein ? Votre voisin d'à côté, vous savez ? Est-ce que vous diriez que vous aimez tous les êtres humains ? Est-ce que ce texte, cette prière de l'apôtre Paul, c'est juste un doux rêve ? Pour passer une heure dans un rêve merveilleux, puis en fait c'est quand même un peu quelque chose qu'on ne vivra que quand Jésus va revenir. Pourquoi est-ce qu'il fait cette prière ? Est-ce qu'il avait la foi et l'assurance que c'est possible de vivre cela ? Alors la réponse, il nous la donne au verset 16. Il dit que c'est possible si nous sommes puissamment fortifiés par l'Esprit de Dieu. Parce que l'amour, c'est une puissance. Ce n'est pas quelque chose de ringard, ce n'est pas quelque chose de mièvre et quelque chose de faible, bien au contraire. C'est une puissance. Et le monde a soif d'amour. Dans toutes les tribus, au sens figuré que j'ai cité, ces gens, si vous prenez le temps de les écouter et de lire ce qu'ils écrivent, ils ont tellement soif d'amour. Est-ce que l'Église a baissé les bras ? En se disant, on va juste vivre sur le chemin étroit, le but c'est de survivre. L'appel de Dieu pour l'Église, c'est vraiment de prendre le relais de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il aimait large, au-delà de ce que ses propres disciples, de ce que nous pouvons penser ou imaginer, comme le dit l'apôtre Paul. Il était celui qui disait à un occupant de son pays, ce que tu as demandé pour ton serviteur, toi, centenier romain, cela t'est accordé. Je n'ai pas vu dans tout Israël une foi comme la tienne. Il était celui qui allait loin jusqu'au Liban, qui rencontrait une femme syro-cananéenne. Aujourd'hui, ce serait une syro-libanaise. Et il l'a poussée dans ses retranchements pour sortir le meilleur d'elle-même. Il a fini par lui dire « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu as demandé. » Et ses disciples pourtant avaient dit « Oh, fais la terre celle-là. » Et aux enfants, les disciples disaient la même chose. Ils nous énervent. Mais Jésus répondait « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Dans la suite de sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul, et dans toute la lettre, même au chapitre 2, il montre que ce passage-là sur l'amour de Dieu, ce n'est pas quelque chose pour des bons sentiments. C'est quelque chose que nous devons mettre en pratique. C'est le cœur même de l'appel de Dieu pour l'Église. Parce que Jésus disait, « Voici, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Et c'est quoi le but ? À cela, tous sauront que vous êtes mes disciples. Voilà l'enjeu de l'amour de Dieu. Ce n'est pas seulement pour nous faire du bien et même entre nous, ce qui est le témoignage essentiel, mais le but, c'est que les autres au dehors sachent que nous sommes les disciples de Dieu. Et c'est à cela, c'est le critère que Dieu retient. L'apôtre Paul dira encore, vous pouvez avoir toute la science du monde, si vous n'avez pas l'amour, cela ne vous sert à rien. En réalité, il le dit aussi dans ce passage que nous méditons, lorsqu'il parle au verset 19 de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Vous avez en français deux fois le mot connaître, mais en réalité ce n'est pas de la même chose dont l'apôtre Paul parle. Quand il parle de connaître l'amour de Dieu, il emploie le mot grec « gynesco ». C'est celui qui, en français, est utilisé pour parler de gynécologie. Autrement dit, Dieu nous parle d'être pénétré par sa parole. On l'a dit en introduction, le but de Dieu, ce n'est pas de régner à la surface, sur la terre, dans l'univers. Son projet top secret qu'il a gardé et qu'un jour il a dévoilé, c'est « je veux entrer dans ton cœur, je veux régner en toi et de là jaillir pour que le monde sache que c'est qui ton maître ?» Et le deuxième verbe qu'il emploie quand il dit « connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance », là ce n'est pas cette intimité avec Dieu, mais c'est la gnose. C'est-à-dire la connaissance intellectuelle, cérébrale. Et on peut avoir entendu parler de l'amour, on peut philosopher dessus, on peut savoir que Dieu dit qu'on doit aimer, mais dans le cœur, ben, je pense qu'on est tous pareils. Hein. Je ne sais pas si vous avez vraiment un cœur pour votre famille, pour l'Église et pour les gens au dehors, vous vous rendez compte qu'au bout d'un moment, on s'épuise. On a l'impression qu'il y a un trou quelque part et que soit ça s'évapore, soit il y a une fuite d'eau, fuite d'amour, et on s'épuise. Et ce n'est pas par la connaissance qu'on va pouvoir être renouvelé, mais l'apôtre Paul le dit, c'est en étant puissamment fortifié par son esprit. Dans la même lettre aux Éphésiens, il nous invite au chapitre 5, verset 18, à être remplis de l'Esprit Saint. Je vous donne un témoignage de quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années quand j'étais encore étudiante, donc plusieurs années, beaucoup d'années, à Rennes. Dans l'église, il y avait quelqu'un, j'avais deux raisons de ne pas le supporter. C'était même pas que je ne l'aimais pas, c'est qu'il y avait deux choses qui faisaient que je m'étais insupportable. Et ça a duré plusieurs semaines, quelques mois. Et un jour où il est venu me parler, et il était manifeste que j'étais très irritée par sa simple présence, par ce qu'il était, je me suis dit, mais je ne peux pas continuer comme ça. Et je crois que tous les jours, on doit se dire, en tant qu'enfant de Dieu, étant donné le commandement de Jésus et l'enjeu pour le salut du monde, on ne peut pas faire semblant, être hypocrite, essayer de montrer que quand même on a de l'amour. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande, et heureusement. Alors que faire ? Prier comme l'apôtre Paul, nous connaissions, c'est-à-dire que nous soyons pénétrés, nous soyons remplis de l'amour de Christ, que cet amour, nous acceptions qu'il entre dans nos cœurs, à nouveau. Et j'ai fait une simple prière, Seigneur, donne-moi ton amour pour cette personne. Et devinez ce qui s'est passé ? J'ai cru que j'allais exploser. Et je me suis dit, j'aurais dû te dire un peu d'amour. Je pensais à cette femme qui disait, si seulement je pouvais toucher son vêtement, je serais guérie, je serais sauvée. Et je me suis dit, en fait, il m'aurait juste suffi de toucher du bout des doigts l'amour de Dieu. Étant donné le petit vase d'argile que je suis bien limitée, ça aurait suffi à me remplir. Mais Dieu nous a créés tout à nouveau, spirituellement. Il a fait en sorte que nous ayons un amour, que nous ayons des cœurs, pardon, qui soient en mesure de ne pas éclater. C'est ce que Jésus a enseigné. On ne fait pas du neuf avec du vieux, sinon ça éclate. Mais je crois aussi que c'est par sa bonté que Dieu n'a pas permis que j'éclate. Est-ce que... individuellement, on peut vraiment accomplir ce projet extraordinaire de Dieu. Si vous regardez au verset 19 encore, à la fin du verset 19, l'objectif que Dieu a, c'est que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce qu'un être humain peut être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu? On se dit, mais être rempli, ça suffit. Non, soit on est rempli, soit on est à moitié rempli. L'apôtre Paul prie que nous soyons remplis. Ça aurait pu suffire, soyez remplis de l'amour de Dieu. Mais il dit, soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Ce qui est rempli plein, bon, ça suffit, c'est rempli, ça va. Non, il en rajoute encore une couche jusqu'à ce que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'objectif de Dieu, ce n'est pas qu'on soit même rempli à 95% de l'amour de Dieu, ou à 99%. Bon, il y a une personne, tu sais, voilà. Rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il n'y a pas d'exception. Et s'il y a des personnes dans votre entourage, dans votre voisinage, sur votre lieu de travail et dans l'église, vous vous dites, mais comment est-ce que je peux l'aimer ? Souvenez-vous du Dieu de diversité. Est-ce que nous sommes à son image dans nos cœurs? Est-ce que dans l'Église, si l'Église était une forêt, l'Église du tabernacle était une forêt, est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment toutes les diversités de l'amour de Dieu présent, de la création de Dieu présente? L'apôtre Paul, au chapitre 2, parle des questions ethniques, on les a déjà mentionnées. Il parle des juifs et des non-juifs. Au chapitre 5, il parle des hommes et des femmes, la question homme-femme. Puis au chapitre 6, il parle des questions générationnelles, enfants et adultes. Et ensuite, il parle de la question sociale, ouvriers et patrons. Chaque jour, quand on lit la presse, quand on écoute les nouvelles, toutes ces catégories sont mentionnées. Le problème des relations entre les peuples, parfois dans un même territoire, une même nation, mais qu'est-ce que c'est dur de s'entendre, hein, n'est-ce pas, quand on écoute en ce moment cette campagne électorale, de s'aimer entre personnes d'origine ethnique différente, de langues différentes. La question homme-femme, j'ai mentionné la tribu LGBT. Toute cette question du genre, et on a l'impression que certains ils voudraient presque éliminer la moitié des êtres humains et n'être plus qu'entre nous. Ben oui, mais ça, c'est pas le projet de Dieu. C'est homogène, c'est bof pour Dieu. Lui, il veut de la variété, il veut de la diversité. Et les questions générationnelles, dans la forêt spirituelle de l'église du tabernacle, est-ce que nous sommes tous là ou est-ce qu'il y a des trous béants? Le projet de Dieu, c'était de ramener le cœur des pères à leurs enfants. Le cœur des pères à leurs enfants, dans ce sens-là. Et le cœur des enfants à leurs pères. Je vais juste faire une brève précision sur la largeur de l'amour de Dieu et de ce que c'est lié aux autres dimensions de l'amour de Dieu. On ne peut pas aimer large si on n'a pas de profondeur d'amour. Et l'une des caractéristiques, me semble-t-il, de cette profondeur de l'amour de Dieu, c'est l'humilité. Mais comment est-ce que les pères peuvent aimer ceux qui sont différents d'eux, ceux qui sont plus jeunes qu'eux? Comment peuvent-ils retourner, faire ce premier pas, eux, les anciens? En regardant à ce que Jésus a fait. Lui, il a quitté son trône pour venir sur la terre. C'est pour nous qui sommes égaux, qui avons de l'orgueil, c'est humiliant. Pour lui, ça ne l'était pas du tout. Et pour lui, il n'y a pas de perte de noblesse dans la profondeur de l'amour de Dieu. Il n'y a pas de perte de noblesse à être humble. Et pour être capable d'aller dans ces profondeurs-là, il faut être capable de résister à une pression. Si vous faites ça dans le monde physique et que vous allez dans les abysses, en fait, vous n'y arriverez pas, vous allez éclater. Vos vaisseaux sanguins vont éclater. Vous n'êtes pas capable, nous, vous humains, de le faire, mais Dieu le fait. Et c'est pareil pour l'amour. Notre orgueil crée une pression qui fait qu'on ne peut pas descendre plus bas. Dans le monde physique, les humains envoient des robots pour aller dans les abysses. Et ils découvrent une faune extraordinaire, luminescente, etc. C'est magnifique. Quid de l'amour? Comment est-ce que les patrons, les pères, on pourrait dire les hommes, les mâles, peuvent se mettre à genoux? Christ l'a fait devant ses disciples. Et il a vécu la mort la plus dégradante qui soit. Mais il a méprisé la honte. Il savait que dans cette profondeur d'amour, il y a de la noblesse. Personne n'est capable de faire ce qu'il est en train de faire à la croix. Descendre aussi bas, En réalité, c'est une prouesse. Et dans la hauteur, Jean-Paul l'a mentionné, il a évoqué, vous vous rappelez peut-être pas, mais si vous regardez à nouveau ce culte, vous verrez qu'il évoque le fait de monter. Avez-vous remarqué que si vous montez en haut de la tour Eiffel, en haut de Montmartre, vous n'allez pas seulement avoir la longueur qui va s'amplifier, mais il y a quelque chose d'autre qui va se passer. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a que de la longueur? Ou est-ce qu'il y a aussi votre vision qui va s'élargir? Et parfois, effectivement, Jean-Paul disait, on n'est que dans la verticalité dans l'amour. Mais Dieu, je ne pourrais pas le faire avec le micro, mais il ne veut pas qu'on soit simplement en train de lever les yeux, comme ça, en train de dire, oh, je suis tellement spirituel, moi j'ai les yeux fixés sur Jésus, et puis c'est tout. On l'a chanté, Dieu regarde lui, le ciel et la terre, qui sont sous lui. Et du haut, comme du haut d'un gratte-ciel, notre vue s'élargit. Il n'y a que deux façons de ne pas avoir sa vue qui s'élargit quand on monte. C'est soit de se prendre un torticolis, soit d'avoir des œillères. Aucune des dimensions de l'amour de Dieu ne se dissocie de l'autre. Il n'y a pas de division, de sélection dans l'amour de Dieu. Il est un. Et nous ne pouvons pas choisir, dire ben, « moi je suis plutôt altier, moi je suis très humaniste, et moi je suis très humble. » Et quid de la longueur? On pourrait dire ben, « moi je suis fatiguée. » Bien, l'amour de Dieu se renouvelle chaque matin, chaque matin, chaque matin. Tous les jours, si on est fatigué d'aimer, j'allais dire, Dieu comprend, on est de simples vases d'argile. Mais il dit, ne reste pas là où tu es. Ne te satisfais pas ou ne désespère pas de toi et ne te contente pas de là où tu es. Tu trouves que tu as beaucoup aimé, il y a plus loin encore. Alors prions que la puissance de l'amour de Dieu nous remplisse jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Alors nous serons à l'image de Christ. Je vous invite à prier avec moi. Père céleste, tu nous lances ce défi de l'amour divin. Tu avais ce projet qui nous dépasse d'habiter en nous, Christ en nous. Et ce n'est pas individuellement seulement que nous pouvons vivre cela, mais c'est surtout avec le défi du collectif, de l'assemblée, du corps de Christ, que nous pourrons vivre le miracle phare qu'est l'amour. Un amour comme le monde ne peut le connaître de lui-même, ne peut le sécréter. Un amour que nous ne pouvons pas sécréter. Mais si nous réclamons cet amour, tu n'attends que ça de le déverser en nous. Et le monde verra, et le monde viendra à toi. Nous pourrons témoigner que ce n'est pas de nous parce que nous, nous nous fatiguons, parce que nous, nous choisissons telle ou telle personne que nous allons aimer ou telle catégorie de personnes. Nous rejetons telles autres, nous laissons partir telles autres parce que nous n'avons pas assez d'amour, pas assez de patience, nous n'avons pas comment faire. Mais toi, Seigneur, tu es celui qui a un amour infiniment large, infiniment profond, persévérant, persévérant, qui ne se tarit pas, qui ne se lasse pas, qui a un zèle extraordinaire dans la durée. Le monde ne connaît pas l'amour qui dure, mais toi, tu es l'amour qui dure pour toujours. Et tu nous dis, viens, viens te ressourcer en moi. Ne tolère pas l'amour tiède, l'amour qui se refroidit. Mais sois rempli, renouvelle-toi de mon amour. Et c'est un appel pour l'Église. Église, sois remplie, élargis ton cœur. Élargis ton cœur parce que Dieu veut aimer plus large à travers toi. Dieu veut aimer toutes les catégories, toutes les générations, que ce soit réel, que ce soit visible, qu'il n'y ait pas de trou béant dans ton église. Accepte de faire le premier pas, comme Jésus l'a fait dans son humilité, même si ce n'est pas à toi normalement de le faire. Accepte de faire le premier pas. Je prie, Seigneur, que nous mettions ta parole en pratique, que nous ne soyons pas oublieux. Nous avons des comptes à te rendre pour le salut de beaucoup qui sont encore dehors, dans les ténèbres, dans les tourments, à prendre des cachets, des médicaments parce qu'ils sont tourmentés à l'intérieur, parce qu'ils ne connaissent pas la personne de Christ, celui qui les aime. Donne à notre Église, Seigneur, l'amour. Donne-nous de vraiment être prêts à recevoir cet amour, à ne pas tolérer la fatigue et la paresse, à vouloir plus de diversité. Parce que tu sais demeurer saint en accueillant tout le monde, tous les êtres humains, toutes les tribus. Tu es capable de garder la sainteté. Il n'y aura pas de permissivité malgré cet amour large. Il n'y aura pas de laxisme malgré cet amour large. Il y aura de la sainteté. Parce que tu nous élèves aussi. Parce que tu nous donnes de demeurer dans les valeurs altières de Dieu. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Je prie que vraiment nous ayons cette volonté chaque jour, et que nous ayons la joie d'expérimenter cet amour infini, individuellement et corporellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen.